Bonjour à toutes et à tous. Faute de ne pouvoir légalement manifester, on peut célébrer la musique aujourd'hui en direct depuis le studio 107 de Radio France. Prière sans Dieu ni maître, danse de liberté, berceuse à 1000 enfants, le piano c'est des marteaux, Bachar, Mar, Khalife.
ليلى يا بابا
Leïla Bachar Maralifé au piano et au chant depuis le studio 107 de la Maison de la Radio. Ce titre est extrait du disque Ya Ballad, sorti sur le label In Fine. Sur la pochette, vos yeux sont cachés par votre main. C'est une photographie de Lee Jeffries, très connu pour avoir photographié des visages de sans domicile fixe. Au contraire, les yeux dans les yeux. Mais tant qu'on ne voit pas les yeux, on ne peut pas statuer sur l'adresse ni des berceuses ni des prières. On ne peut rien enfermer du sens ou des sens qui semblent poindre, ni leur donner de géographie. Alors Ya Ballad, au pays, devient un espace théorique, comme Utopia, une déchirure dans le décor du réel, déchirure dans laquelle on peut chanter fort ou tout bas. Bonjour, merci beaucoup d'être là, Bachar.
Bonjour, merci à vous de m'accueillir.
On va continuer à parler de cette image, qui est une image qui fait référence à la pochette de votre précédent disque, où votre visage n'était pas beaucoup plus visible. Il était découpé dans une géométrie de couleurs avec des triangles. Elle a quoi comme statut, cette image en noir et blanc de Lee Jeffries, pour vous ?
C'est une série d'images. Celle-là a été choisie au final... J'ai trouvé que c'était celle qui parlait le plus. Les yeux fermés, c'est aussi un monde qui est ouvert à beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses les yeux fermés. Quand on écoute la radio, on peut fermer les yeux aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent les yeux fermés. Écouter de la musique aussi. Il y en a d'autres où j'ai les yeux ouverts dans la série avec Lee Jeffries, mais c'était pas le même rapport forcément qu'il avait avec les sans domicile fixe. C'est pas du tout le même propos. C'est quand même mais la magie est là dans ses couleurs, son noir et blanc est en fait très lumineux, et c'est vrai que les yeux apportent beaucoup de lumière en général quand on voit les yeux des gens, ou en tout cas apportent beaucoup de sincérité. Mais je crois aussi dans la magie des choses cachées, des choses. Je trouve que plus on cache, ou en tout cas moins on en dit, plus on est riche, je trouve.
Et c'est le sens de cette image, que de justement fermer pour mieux ouvrir, puisque par ailleurs, dans ce disque-là, vous manipulez, vous jouez avec un matériau qui est plein de sens, avec une musique qui est pleine de sens. Alors c'est comme si vous mettiez un petit couvercle.
Oui, je crois que c'est pas un hasard si j'ai choisi cette image. Il y a aussi beaucoup... de ma personnalité dedans, c'est-à-dire beaucoup de pudeur ou de choses qui font que j'ai pas envie d'être moi-même au devant sur mon disque. C'est pas moi, c'est une image de moi, c'est un des sens en tout cas de la photo. Et c'est pareil pour le titre. C'est un titre qui est assez ouvert, qui dit au pays et qui s'adresse à beaucoup de choses, enfouies en moi, mais aussi et je le vois après les concerts ou quand j'ai des retours qui sont enfouis aussi dans les auditeurs et chez les gens qui écoutent et qui sont projetés dans leur propre image et leur propre pays, on va dire.
Il arrive quand ce titre Ya Ballad au pays ?
Il arrive à la fin. C'est à la fin de l'enregistrement. Déjà, c'est une chanson sur le disque, mais j'avais pas encore le titre de cette chanson, j'avais pas les paroles non plus. J'ai écrit les paroles le matin, et on a enregistré à l'après-midi, et c'était un moment très fort, c'était un des moments les plus forts au studio, Et quand il y a quelque chose de très fort, j'aime le marquer. Donc je l'ai marqué sur la pochette.
Vous sauriez dire pourquoi c'était fort ce moment-là?
Oui, c'était fort parce que j'ai, je crois pour la première fois, je me suis adressé assez directement à mon pays. Mais ça, c'était c'était quelque chose de très très personnel. Enfin, les gens qui travaillaient avec moi, enfin surtout mon ingénieur du son, Joachim, ne comprend pas l'arabe, donc j'étais seul face à cette chanson et face à ces paroles que je venais d'écrire. Et il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Et évidemment, à chaque fois que j'évoque ce moment, je suis aussi dans un moment un peu fragile. Donc, c'était, je crois aussi, il y a le décalage qui est très fort entre le lieu où je me trouvais, la période de la vie à laquelle j'étais et ce à quoi ça me renvoyait, à mon enfance, à ma famille, à toute cette histoire, à tous ces hommes qui sont partis de leur pays depuis le début de l'humanité et qui, je pensais, je sais pas, à mon grand-père qui était chauffeur de taxi à Amchit, au Liban, à mon autre grand-père qui faisait de l'artisanat, il faisait des couteaux, il fabriquait des couteaux. Tout ça remonte.
Et vous les avez accueillis facilement à ce moment-là? Toutes ces choses qui remontaient de ce pays du Liban ou peut-être plus généralement d'une condition d'exil plus large et plus partagée?
C'est ma réalité, en tout cas. Moi, je vis comme ça tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose qui me renvoie à cette réalité-là. C'est le fait que je suis quelque part où je ne suis pas né. Et c'est quelque chose qui est métaphoriquement, je trouve, très, très riche, très intéressant. Poétiquement, tout ça, et je ne dis pas qu'il faut absolument avoir vécu un exil physique pour vivre cette poésie-là. Justement, je crois qu'on a tout ça en nous. On a cette forme d'exil par rapport déjà à notre enfance. On est tous des exilés. Et à notre enfance, à notre histoire, parfois à notre société. Et parfois on a des besoins d'exil et c'est parfois un besoin aussi de me replonger dans ça et de le faire seul et en silence dans un studio ou ailleurs ou sur scène.
ببساطة بشتاق أوقات لبعض الأغاني وبفرح أكتر لما بغنيهم وبحس إنه الناس كمان كانت مشتاقت لهم. وأوقات بتعاون مع زياد الرحباني بيقترح علي عناوين ومنتشاور ومنختار سوا.
Parfois je choisis des chansons simplement parce qu'elles me manquent. Et une fois sur scène, je suis souvent agréablement surprise parce que je découvre qu'elles manquent aussi aux gens. Sinon, je travaille avec Ziad Rahbani qui me propose des titres, nous discutons ensemble, il me propose des titres et nous choisissons ensemble.
Un des rares archives de la voix de Fairuz qui choisit des musiques parce qu'elle lui manque et elle réalise que ça manque aussi à l'Assemblée. C'est une archive qui est tirée de la partie continue diffusée en 2002 sur France Inter. Vous avez dit à l'instant que peut-être l'exil qui est le plus commun à toute l'humanité, c'est l'exil de l'enfance, du rapport à l'enfance. Il se trouve que sur ces deux disques-là, il y a le motif de la berceuse qui revient par plein de chemins différents, que ce soit la manière dont vous posez votre voix sur une musique, y compris quand ce n'est pas une berceuse, et que ce soit la manière dont vous décidez de jouer des berceuses, de revisiter des berceuses. C'est quoi pour vous cette musique-là, la musique de la berceuse?
C'est, je crois que c'est la forme musicale que j'ai trouvée de plus complète. dans l'expression poétique que j'aime exprimer dans une chanson. Je reviens juste sur l'archive de Fayrouz qui parle de Ziad Rahbani qui est son fils quand même. Et je saisis une pudeur
à le citer par son nom.
Très de chez nous, je vais dire ça comme ça. Il y a un rapport de dire son nom comme ça. Je le ressens au plus profond de moi. Je sais que il y a beaucoup de familles au Liban qui peuvent saisir cette nuance dans l'adresse à son enfant et à son. Et justement, je crois que les berceuses m'ont permis de dépasser un petit peu cette pudeur et la première berceuse que j'ai écrite pour mon fils. C'était sur l'album précédent et je m'adressais directement à lui. Et je crois que. Je crois que cette adresse directe est parfois importante, surtout quand il s'agit de sentiments. Et reprendre les berceuses des autres. C'est la même chose. La berceuse que j'ai repris sur cet album est de Théodore Botrel.
Un breton de la fin du 19e siècle, début du 20e, de Dinan, des Côtes d'Armor. Dors mon petit gars.
Dors mon petit gars. C'est une adresse directe à. Quand je chante ça, c'est une adresse directe à mes enfants. Et cette chanson, cette berceuse n'a de sens que. N'a un sens que si elle est chantée comme ça, je pense. Et si elle est. Si elle est là, c'est pas un hasard. C'est. Voilà.
La berceuse, c'est aussi, vous le dites très bien, avec ce dernier titre de Yabalad, c'est quelque chose qui est passé par plein de bouches, par plein de cœurs, par plein de parents chantant à des enfants, de grands-parents chantant à des enfants, de nourrices chantant à des enfants. Donc c'est aussi venir dans un flux et un flot qui vous dépasse. Il y a une autre chanson qui a l'allure d'une berceuse, je ne sais pas si c'en est vraiment une, Golshif Tefarani chante avec vous sur ce titre. Est-ce que c'est une berceuse?
Oui.
Et c'est une berceuse qui raconte une histoire très belle, puisqu'elle parle d'un oiseau, qu'on rassure. Est-ce que vous pouvez en dire deux, trois mots?
C'est une berceuse traditionnelle, libanaise, moyen-orientale, qu'on a enregistrée pour. J'ai rencontré Golshifteh pour un film, en fait. Elle tournait dans un film d'une réalisatrice libanaise qui s'appelle Jihan Shoaib. Et pour le générique de fin, elle voulait cette berceuse parce que dans le film, cette berceuse est chantée à plusieurs reprises. Effectivement, la berceuse passe de génération en génération et on a l'impression de s'inscrire comme ça dans la vie, dans l'histoire, dans la liaison qui est faite entre les hommes, entre les enfants, les mères et les pères. C'est beau de se sentir lié avec tous ces gens-là qui ont chanté la même chose ou qui ont reçu cette même chanson.
Parce que c'est aussi un lien entre ceux qui chantent. Et c'est pas rien, c'est-à-dire que ça nous lie aussi à ceux qui ont chanté, pas seulement qui ont bercé.
Exactement. Et cette berceuse dit qu'elle s'endorme je pense que de toute façon toutes les berceuses parlent de la même chose hein, dans toutes les cultures du monde.
C'est-à-dire dors tranquille.
Exactement.
Kyrie eleison, donc, comme vous savez, ça veut dire « Seigneur, aie pitié de nous », quoi. Et vraiment, c'est une espèce de phrase, une espèce de slogan sur lequel est bâti plusieurs siècles, des dizaines de siècles de notre civilisation et de notre culture. Quel Seigneur, quel Dieu, sinon celui qu'on a inventé. Et si vraiment il existe, c'est une ordure, quoi, je veux le dire, parce que il a tellement laissé faire de saloperies. Et ça continue encore que, bon, je peux vraiment pas y croire. Moi, je, peut-être qu'il existe, mais il n'en a rien à foutre. Mmh. Il n'en a rien à foutre de nous.
Voilà, je disais en introduction qu'il y allait avoir des prières sans Dieu ni maître, et cette petite référence anarchiste n'était pas hasardeuse. On entend ici la voix de Béranger, c'est une archive tirée d'une émission à mots découverts diffusée en 1997 qui parle du Kyrie Eleison. Vous en mettez un, vous en chantez un, vous en inscrivez un sur ce disque Yabalad. Quel est le statut de cette chanson-là et est-ce qu'elle en a un particulier sur ce disque, Bachar Mar Khalifé?
C'est la chanson qui ouvre l'album, donc elle a son statut
Kinky Pete
particulier. Que dire, j'ai beaucoup ri à l'écoute de cette archive parce que j'aime les êtres libres, j'aime les êtres qui questionnent tout. Et qui n'ont pas peur de questionner ces choses-là, que ce soit l'existence de Dieu ou ou sa nature, sa bonté présumée, ou... Et dans l'art, plus que dans tout autre domaine, je pense qu'il est essentiel de questionner tout ça et de même de susciter des débats, pourquoi pas, dans la société.
Vous êtes assez calme ou discret quand vous dites susciter des débats, parce que vous venez de traverser une période où susciter des débats est un euphémisme à propos de cette chanson-là, au Liban.
Oui, et il faut pas passer cette archive-là au Liban, hein, parce qu'il y a des choses, que malheureusement on n'a pas le droit de dire dans certains pays, et donc pour ma chanson, je n'avais pas le droit de dire. Prends pitié, épargne-nous et laisse-nous tranquilles. Cette chanson a été censurée et donc l'album n'est pas sorti au Liban.
Vous nous en jouez deux extraits ou plus?
Oui.
Bachar Mar Khalifé, en direct du studio 107 à la Maison de la Radio, sur un Steinway brillant. On vous écoute.
Je vais commencer par Yabalad, que je dédie sur scène à tous les réfugiés.
Skirna sawa.
Ô Seigneur, prends pitié et accorde-moi cette dernière requête. Épargne-nous et laisse-nous tranquilles.
لأجلك لأجلك يا رب آمنت جادت استقبلني اسمح لي أطلب آخر شيء يا ريت يا رب غنائي لأجلك لأجلك يا رب صمتي لأجلك لأجلك يا رب اسمح لي أطلب آخر شيء يا ريت يا رب
Bachar Makhadife au studio 107 de la Maison de la Radio pour les Nouvelles Vagues. Ce sont deux extraits qui viennent d'être joués, deux extraits du disque Ya Ballad. Bachar Makhadife qui nous rejoint, qui me et qui vous rejoint à table. Je me souviens vous avoir vu en concert il y a quelques années au Café de la Danse, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, dans une petite salle parisienne et je me disais que ça pouvait être... ou bien tout le monde pouvait en effet... peut-être finalement dormir tranquille dans cette salle, ou bien tout casser. Du coup, je me demande, vous, dans quel état vous êtes maintenant, aujourd'hui, quand vous faites des concerts ?
Moi, j'ai envie de dormir tranquille.
Dites-vous les yeux fermés.
Et je crois qu'au fond, on a tous envie de dormir tranquille. Et que... malheureusement, pour dormir tranquille, je crois qu'à un moment donné, il faut tout casser. Et l'un ne va pas sans l'autre, je crois. Et mais bon, j'ai pas la réponse. C'est quelque chose qui fluctue en fonction de. De la journée, de à quel point je peux me protéger des choses extérieures à un moment donné, à quel point je suis submergé par par les gens, par les infos, par le monde. Mais c'est sûr, le mieux c'est de dormir tranquillement.
Au piano, évidemment, on peut exprimer des tas de choses et on peut aussi musicalement posséder à la fois l'harmonie, le contrepoint, la mélodie et la basse, que c'est un instrument qui peut nous combler parfaitement. Mais je n'ai pas à me plaindre de mon piano parce que je n'ai pas un rapport de force avec mon instrument. Je sais que c'est un instrument très têtu à réussir, à dominer les difficultés de cet instrument. Mais j'ai pris patience et je me suis dit, il ne faut pas qu'il y ait un gagnant et un perdant dans l'histoire, mais il faudrait que nous soyons contents tous les deux. Et je pense que j'y arrive au fur et à mesure. Je crois qu'il y a quelque part une grande violence en moi. Est-ce que la violence est quelque chose de raisonnable ou pas ? Je ne sais pas. Mais le piano est un exutoire de violence chez moi, c'est sûr. Mais cela dit, en temps normal, je suis pour un rapport pacifique avec le monde.
Elle vous fait sourire cette voix aussi, Bachar Mahalifeh ici, Abdelrahman El Bacha, dans l'émission Air Libre sur France Musique, c'était en 1992, il avait à peu près 34 ans, si mes calculs sont bons, c'est-à-dire pas loin de l'âge que vous avez maintenant.
Ouais, et j'avais à peu près 9 ans et nous allions chez lui prendre des cours supplémentaires de piano avec mon frère. Et c'était une rencontre qui nous a marqué, je crois. Et j'ai souri quand il a dit un rapport pacifiste au monde parce que c'est
vrai. À son piano.
À son piano et je crois aussi au monde parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de. On allait chez lui, c'était très calme, c'était à la campagne et il parlait pas beaucoup, il parlait pas très fort et c'est donc c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et je suis même rassuré que déjà à cette époque, en tout cas à cette époque-là, il avait une violence en lui qui n'était pas visible en tout cas physiquement, parce que je suis rassuré quand je vois que beaucoup de gens, et en fait peut-être tout le monde, ont une certaine violence en eux, mais qui la transforme en quelque chose de beau, que ce soit au piano ou à la boulangerie ou n'importe où. Je crois que quand on crée des choses, c'est un beau moyen de transformer cette violence et de la rendre utile en tout cas. Enfin, peut-être pas très utile, mais un petit peu.
Il dit du piano que c'est un instrument têtu, vous êtes d'accord ?
Je crois pas avoir le même rapport au piano. Moi, j'ai quitté le piano à 16 ans. C'était mon premier instrument. Et à 16 ans, je me suis consacré à la percussion. Et pendant 10 ans, j'ai pas approché un piano. Et mon frère est pianiste aussi. Donc la place du piano dans la famille était... c'était l'instrument dans le salon. Et c'était l'instrument... c'était l'instrument que j'avais pas choisi, en tout cas. C'était l'instrument que mon père voulait... Exactement pour les mêmes raisons que Abdelrahman disait pour le développement de l'oreille, de la mélodie, etc. Le piano, c'est très important comme instrument de départ. Mais en tout cas, je ne l'ai pas choisi. Et par contre, la percussion, c'était la première chose que j'ai choisie. J'ai dit à mes parents que je voulais faire de la percussion. Et je suis revenu au piano pour mon premier album, un peu par hasard. Et j'ai senti que je revenais à quelque chose de très intime, que j'avais un peu négligé. Mais c'est un rapport très conflictuel. J'ai cassé des pianos à la hache pour des vidéos. Et c'est une sorte d'exutoire, en effet. Mais je ne sacralise pas cet instrument. J'aime le voir. J'aime voir la mécanique. J'aime voir que ce sont des hommes qui l'ont fabriqué avec du bois et que c'est du matériel et que c'est un instrument qu'on utilise au même titre qu'on pourrait utiliser une casserole pour faire de la musique.
D'ailleurs, c'est un instrument très percussif. Je disais en introduction de cette émission que ce sont des marteaux.
Oui, c'est un instrument à percussion, comme me le rappelait mon professeur de piano. Et donc finalement, j'ai toujours que fait de la percussion dans ma vie.
J'ai précisé aussi, lorsque vous êtes allé vous asseoir pour jouer tout à l'heure, que vous étiez en train de jouer sur un Steinway au milieu de la maison de la radio avec beaucoup de lumière, un très beau piano à queue noir qui brille, qui est très luxueux comme ça. Alors que le piano qu'on entend sur vos disques, il est, je ne sais pas, peut-être il est tout aussi beau, mais il est beaucoup plus enroué. Il est presque, on a l'impression qu'on l'entend rouiller, on l'entend vieillir, on l'entend plus brinque-ballant.
Oui, c'est pour les mêmes raisons. J'ai un peu du mal avec l'image du piano qui brille et qui sur lequel on joue la musique romantique, Chopin, Rachmaninoff, Liszt, tout ça. J'ai l'impression que ça a pas fait beaucoup de bien à l'instrument, alors que par la suite, des gens comme John Cage sont venus et ont vraiment utilisé toutes les possibilités de l'instrument en jetant des balles de ping-pong dans les cordes ou en allant jouer dans les cordes avec les ongles, tout ça. Chose qui est un peu, même aujourd'hui dans le monde du classique, qui est presque blasphématoire. C'est quelque chose...
Et que vous faites avec joie.
Moi, je fais avec beaucoup de joie et j'encourage tous les... Non, je devrais pas dire ça. Tous les étudiants au conservatoire à...
À rentrer dans le piano, à mettre les mains dedans.
Mais ça se fait de... Heureusement, ça se fait de plus en plus, surtout dans la composition contemporaine où, voilà, on explore toutes les possibilités de tous les instruments, d'ailleurs. Il était temps. Par contre, oui, moi, en ce qui me concerne, j'aime quand sur scène, quand ça frotte un peu, quand l'accordage est pas parfait. C'est une richesse pour moi. S'il y a du frottement, au contraire, il y a encore plus de vibrations d'air et encore plus de vie finalement. Et l'accordage 440, 442 pour tous les instruments de l'orchestre. Tous pareil, je crois aussi que c'est une aberration moderne, parce qu'avant c'était pas le cas. On laissait vivre un peu plus les instruments, on les laissait s'accorder un peu par eux-mêmes. Ce sont des nuances musicales poétiques presque, qui, je sais pas pourquoi on veut se passer de cette richesse là.
D'ailleurs,
essayer d'aller au plus pur possible, au plus propre, au plus... Je sais pas pourquoi, c'est trop aseptisé.
En parlant de poésie, il y a quelques mots français qui viennent presque les yeux bandés ou en loose-dé, en vagabond sur le disque Ya Ballade. C'était aussi le cas sur le précédent album. Ils étaient aussi en loose-dé, en vagabond, parce que c'était les mots de Gainsbourg et c'était des mots qui disait qu'il ne voulait pas dire. Machin chose, un duo que vous enregistrez avec Kida, et ça veut rien, ça veut dire que ça ne veut pas dire. Mmh. C'est quoi votre rapport à ces mots français?
Le français, oui, c'est une langue, c'est la langue dans laquelle j'ai grandi, j'ai étudié, en tout cas à l'école. J'ai lu en français et tout ça, la poésie arabe, j'y suis parvenu par le biais du français, par les traductions. Je ne maîtrise pas l'écriture et la lecture arabe comme je maîtrise le français. Donc c'est donc mais je compose mes chansons en arabe et je n'ai pas encore je l'ai pas encore fait en français. J'ai écrit des poèmes, des textes en français que j'aime lire. J'ai l'impression que le français me permet de dire des choses. Je sais pas comment c'est perçu. C'est très vague ça pour moi, mais j'aime dire des choses. J'aime parler en français. J'aime dire de la poésie en français. Je ne maîtrise pas tout dans ce domaine. Je sais pas.
France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
Alors vous allez voir que justement il va être question de poèmes en français, vous allez certainement trouver des échos dans les mots de Sika Flakambi qu'on écoute cette semaine dans la rubrique au singulier. Elle est traductrice justement et elle évoque aujourd'hui un poème, du vent, mais surtout ses retrouvailles avec le Bénin.
Bien après ma rencontre avec les textes de Gayle Jones et je suis allée au Bénin longtemps de moi et c'était un moment de retrouvailles avec moi-même, avec le Bénin, sans doute mise au point avec moi-même. Et cette année-là, c'était donc l'hiver en France et au Bénin, c'est juste la saison sèche qui s'en vient en décembre. Et on attend l'Harmattan, enfin moi, on l'attend tous, l'Harmattan, qui souffle et qui souffle jusqu'à la côte. Et qui, soufflant jusqu'à la côte, souffle du sable, dessèche la peau, en poussière tout, la latérite donc qui est soulevée par ce vent se dépose partout, tout est rouge, la végétation n'est plus verte mais rouge et on respire la poussière et les gens ont des anoraks de ski dans la rue sous le soleil parce qu'il fait juste quelques degrés de moins et c'est très froid. Enfin c'est vraiment un événement et moi c'est pour moi c'est un souvenir d'enfance très fort et c'est quelque chose qui est en moi. Et quand je suis au Bénin à cette période-là et que l'Harmattan ne vient pas, parce que parfois il ne vient pas, c'est un peu triste pour moi. Donc c'est voilà, il est venu cette année-là et c'est pendant cette période-là au creux de l'Harmattan qui était très fort que j'ai traduit pour la première fois un texte qui était court et dont je me suis dit, ça y est, c'est un poème. Je viens d'écrire un poème en français, de ce poème en anglais. Et en fait, ce texte, c'est un poème d'Andrew Zawaki, qui est donc un poète américain, que je venais de rencontrer un an avant, peut-être, et qui m'avait donné son premier recueil et qui m'avait dit que si j'avais envie de le traduire, et voilà. Et puis je l'ai emmené au Bénin. Fait partie des rares textes que j'ai emmenés avec moi et j'ai commencé à traduire ce poème-là et quand il a été terminé, j'ai compris que j'allais pouvoir lui envoyer comme quelque chose qui était absolument terminé, ce que je n'avais pas encore tout à fait osé faire, même en ayant traduit plein de nouvelles ou d'autres textes. Et donc, quand je suis rentrée finalement du Bénin, après 2 mois là-bas, j'ai commencé à écrire à des éditeurs, à des revues, pour leur proposer des poèmes ou d'autres textes.
On en lit un bout ?
Voilà, je vais vous lire ce poème qui s'intitule « Albédo, numéro 5, vertigo, vertige ». Il y a des choses que je voudrais bien régler avec moi. Pourquoi, par exemple, comme l'automne se désagrège, je ne suis pas capable de tirer au mortier ? Moi contre moi, rien que du soleil la lumière, éparpillée d'ici jusqu'au soleil. Par je veux dire une fenêtre, rougeur frôlant le lac à l'aube, ou tel écho se délitant le long d'un mur, tout contre acculé à se cacher et s'exténuant vers la voie d'où il s'est évanoui.
تقطقطقطيني تقطقطمس ايديني زماني غايب عالحياة الفرحة تقطقطقطقطيني تقطقطمس ايديني زماني غايب عالحياة الفرحة زماني الغايب عالحياة الفرحة يا كاس دليني عطريك الخمري زماني الغايب عالجارة والمتعة والناس قالولي الحلوة لا تبوسة كأنها القصة وقفة على شفافة وفي الساحة لقيتها والكل كان سمعنا ورقصنا جنينا طب علينا الشرطة تقطقطقطقطيني تقطقطمس ايديني زماني الغايب عالحياة الفرحة تقطقطقطقطيني تقطقطمس ايديني زماني الغايب عالحياة الفرحة الفرحة تقطقطقطقطيني تقطقطمس ايديني زماني الغايب عالحياة الفرحة تقطقطقطقطيني تقطقطمس ايديني زماني الغايب عالحياة الفرحة تقطقطقطقطيني تقطقطمس ايديني زماني الغايب عالحياة الفرحة زماني
Yannas Bachar Mahalife, un immense merci d'avoir été avec nous cet après-midi sur France Culture. Je cite Oil Slick, c'est le disque dont extrait ce titre, mais aussi Yabala dont nous avons parlé, ou enfin l'EP Lemon, tout ça sur le label Infine. Un très grand merci aussi aujourd'hui à la technique Guillaume Ledu et Tar Bouklifa. Cette émission est imaginée avec Inès Duperron, Alice Ramon, Romain Debec de Lièvre, et elle est réalisée par Somanina.